Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone de nouveau pour une autre spéciale du samedi de Société, toujours en temps de COVID. Hein, il faut bien le dire, cette crise se poursuit, bien que nous soyons en déconfinement de plus en plus abouti. Rien n'est tout à fait pareil comme avant, mais de plus en plus, on fonctionne, on reprend nos activités, notre travail, on magasine même, mais on fait attention, on est en distanciation. À Montréal, vous pourrez bientôt vous faire couper les cheveux, entre autres soins personnels. Alors, à l'émission aujourd'hui, nous discutons dans un instant de l'actualité politique de la semaine avec notre collaborateur Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal. Nous allons également parler à Maître Stéphane Hanfield, avocat spécialisé en droit de l'immigration, de la réforme, la re-réforme du programme de l'expérience québécoise présenté cette semaine par le ministre Jolin Barrette. Également des demandeurs d'asile qui œuvrent dans les CHSLD en ce moment et de la possibilité là, de la porte ouverte peut-être par M. Legault à leur égard. Nous allons aussi discuter, poursuivre notre discussion avec Mathieu Bock-Côté sur les leçons du confinement et de cette période de crise inusitée. Et enfin, nous parlons avec Nicolas Vidal de Paris, du déconfinement en France et en Europe. Donc, bonne émission, chers auditeurs. Commençons tout de suite avec le chroniqueur au Journal de Montréal, blogueur. Il intervient un peu partout à la radio, Steve Fortin. Bonjour, Steve Fortin.
Ben, salut, comment ça va?
Bien, vous aussi, vous êtes toujours déconfiné?
Ah oui, écoute, ça se passe bien, on doit quand même le dire. On s'est parlé à quelques reprises, puis les gens ici dans la région, on attendait de voir les 14 et 21 premiers jours. Ça fait en fait 21 jours maintenant qu'il y a eu les premiers petits pas de déconfinement. Et les chiffres sont bons.
Monsieur Legault nous parlait cette semaine du bilan somme toute positif du déconfinement, ouais. De la réouverture des écoles.
Hein, oui, bien, et ça, c'est vraiment un franc succès par ici, parce que je dois le dire, la commission scolaire, parce qu'on oublie parfois que tout ça, ça s'est passé au moment où l'adoption de la loi 40. Moi, j'ai fait une longue entrevue hier avec le ministre de la Famille qui était dans son comté, qui est le mien, et j'ai eu la chance de parler de ça avec lui. On oublie des fois à quel point tout ça s'est tombé au moment où la loi 40 était adoptée. Et imaginons que dans une commission scolaire comme ici, alors qu'on demande aux gens, bon ben OK, on prépare, tu sais, c'est inédit, là. Je veux dire, on arrête l'école complètement. On va repartir l'école. Et moi, je veux lever mon chapeau à tous les intervenants scolaires qui ont mis la main à la pâte puis qui ont fait en sorte que, en fonction des choix des parents que l'on a respectés, ben, je veux dire, ça se passe bien dans la classe, par exemple, de ma fille qui est en sixième année.
C'est dans quel comté, vous, déjà, Steve Fortin, dans l'Outaouais?
Dans Papineau.
Dans Papineau, voilà.
Monsieur Lacombe, donc, ministre de la Famille, était élu ici. Hein, si on se souvient, c'est le fief de Norm MacMillan. C'était le fief de Norm MacMillan ici. Et aussi, ne l'oublions pas, le député Jean-Alfred, hein, le péquiste qui avait réussi à passer ici contre toute attente en 76. Donc, c'est ça. Et je veux lever mon chapeau parce que dans des classes comme ça, où la moitié est à la maison puis l'autre moitié est dans la classe, ben tu sais, avec les moyens technologiques qu'on a, tout le monde est là pendant les périodes où c'est le moment de faire le rattrapage et même voir quelques nouvelles notions. Ben ça se passe bien. Et ça, il faut le dire aussi, il faut lever notre chapeau quand ça va bien. Puis, alors, je dois dire, la commission scolaire ici fait un bon travail. En tout cas, l'ex-commission scolaire.
Oui, c'est ça. En effet, c'est formidable. D'excellentes commissions scolaires qui n'existent plus et qui font un bon travail. On est dans cette étrange situation.
Oui, c'est vrai.
Dites-moi, Steve Fortin, votre semaine, notre semaine politique à tous, comment vous l'avez trouvée? Qu'est-ce qui retient votre attention? Est-ce que François Legault continue, à votre avis, de gérer la crise au mieux? Comment ça se passe, selon vous?
Ben, en tout cas, du côté de si on veut, là, du confinement puis de la réponse à la pandémie, on doit quand même souligner une chose là, c'est que en général, je crois que François Legault vise dans la bonne direction, pointe dans la bonne direction, celle de s'attaquer au plus vite au manque de personnel dans les CHSLD. C'est vraiment là que ça va se jouer. Je veux lever mon chapeau aussi et dire bravo, ils ont fait volte-face sur la question des des préposés aux bénéficiaires, ceux qui n'ont pas vraiment de statut ici et qui travaillent dans nos CHSLD. J'étais derrière l'initiative de
la députée Catherine Fournier.
J'étais derrière ça. Puis ce que j'ai aimé de Catherine Fournier, c'est que il n'y avait pas de politique à faire sur le dos de ça. Elle a pris ce dossier-là, elle l'a mené, elle l'a mené vraiment pour le bien de ceux qui étaient là, et c'est tout. J'aime pas quand on politise et quand on essaie de faire du millage politique pour une autre cause, et je vais le dire, là, j'ai fait des entrevues avec quelques préposés aux bénéficiaires dans la région de la Lanaudière et ici dans notre région, parce qu'il y a eu un seul foyer d'éclosion dans Papineau, c'était au CLSC de Saint-André-Avelin, et l'information régionale étant importante, le journal Le Droit avait déjà couvert la chose, on a raconté l'histoire d'une réussite, et ça, on a beaucoup aimé ça, mais j'ai eu la chance de parler avec deux préposés aux bénéficiaires qui sont de ce CHSLD-là, puis il est un petit peu tanné de voir qu'on, dans les médias là, de masse, si on veut, les grands médias, on parlait beaucoup de certains préposés aux bénéficiaires, alors que il aurait aimé qu'on mette un peu plus l'emphase sur l'ensemble des préposés aux bénéficiaires, et notamment en région, et là où il y a eu des réussites, là où des gens se sont confinés avec les patients, avec les bénéficiaires, pour le bien de ceux-ci, et même parfois en se coupant de leur propre famille, il faut aussi le souligner.
Oui, puis ces préposés dont vous parlez, ceux qui se sentent un peu invisibilisés, pour prendre un mot à la mode, sont souvent ceux qui sont là depuis longtemps, qui font ce travail, c'est une sorte de vocation.
Ça leur faisait, entre autres, j'ai parlé avec un monsieur qui fait ce métier-là depuis 25 ans, puis il m'a rappelé, d'ailleurs, parce qu'on a discuté de politique un peu ensemble, puis il a dit, je lui ai dit, oui, moi, en 94, j'avais été candidat dans le comté de Chapleau, Gatineau, donc, puis il m'a dit, il connaissait bien la députée qui avait été élue pour le Parti libéral à cette époque-là, puis il dit, elle s'appelait Claire Vève. J'ai dit, oui, je me souviens d'elle. Il dit, sur quoi tu penses qu'elle avait fait ses élections? Sur la condition des aînés dans les CHSLD. Il dit, ça date pas d'hier, puis je suis retourné, et effectivement, j'ai trouvé des traces de ça, puis je me disais, on est là-dedans depuis longtemps, puis lui, il me disait, quand on met le gros de la lorgnette sur des... Puis il faut le faire, il faut souligner le travail que les préposés aux bénéficiaires réfugiés ont fait dans les CHSLD de Montréal, mais ce qui le mettait hors de lui, c'est quand on disait, oui, mais c'est parce que les Québécois, ils veulent pas le faire, ce travail-là, puis il dit, tabarnouche, on est combien, 10 000 au Québec qui faisons ce travail-là, et plus, je sais pas le chiffre, puis il dit, moi, je suis là depuis 25 ans, on a travaillé là-dedans quand les conditions, on travaille dans ce secteur-là, on travaille là-dedans avec des conditions salariales qui étaient vraiment médiocres, puis là, maintenant, on est content, tout va grimper, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a des gens qui font ce travail-là, qui en ont fait une carrière et qui le font avec dévouement. Alors, c'est un petit peu frustrant pour eux de voir que des fois, on les oubliait.
Alors, justement, à ce sujet-là, on sent bien que l'espèce de bras de fer ou de rivalité, de concours d'image publique se poursuit entre M. Legault et certains syndicats, à tout le moins, dont la FIC.
Ouais.
Est-ce que... C'est vrai qu'on est dans une situation inusitée dans laquelle M. Legault dispose d'une tribune exceptionnelle plusieurs fois par semaine où il a tout le temps voulu pour s'adresser directement aux Québécois dans des mots choisis, à travers lesquels, ma foi, il ne fait pas très bien paraître les syndicats toujours. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison d'être un peu frustrés de cet état de fait ou sont-ils effectivement un peu réactionnaires, réfractaires au changement comme le laisse entendre M. Legault?
Quand on s'en est parlé la dernière fois, je reste sur ce point-là, c'est que c'est pas le bon moment pour négocier, et de sa tribune, François Legault devrait faire attention de la façon par laquelle il s'adresse aux syndicats, puis en même temps aussi à la population.
Il était très clair là, cette semaine sur sa critique de la FIC était à peine voilée, vraiment.
Oui, mais c'est pas le bon moment de faire ça, puis moi, j'embarque pas là-dedans. Si on commence à faire de la politique comme ça, par le truchement d'une tribune, comme tu le dis, qui est inédite, ben on va avoir de la difficulté. Puis c'est pas toujours heureux en passant. On a vu cette semaine, il y a eu un sondage très intéressant par Abacus en Ontario. Doug Ford, là, il y a même pas 4 mois de ça, son taux d'approbation avait descendu à 19%. C'était du jamais vu en Ontario. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Et là, maintenant, il fait des recettes de gâteaux au fromage. Il est populaire. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ça donne un peu mal au cœur, remarquez. Mais c'est un autre problème. Mais bref, il est devenu presque une vedette.
Cet angle politique-là de la crise, on va l'étudier à un moment donné. On va voir comment elle aura profité à des politiciens qui, du reste, dans certains cas, avaient des problèmes vraiment, il était pas accepté, Doug Ford. On le voyait vraiment comme ce gros bourru, un peu comme son frère, puis il passait pas du tout. Mais là où c'est important, ou là où c'est intéressant dans le sondage à Bacchus, c'est on voit que la perception de Doug Ford change dans des segments de l'électorat qui lui étaient impossibles de pénétrer avant, et notamment dans le Grand Toronto. Et il y avait ce graphique-là qui était pour moi stupéfiant, puis j'ai hâte de voir, j'espère qu'on va en faire un pour le Québec, où on voyait que la proportion des gens qui disaient « on ne votera jamais pour Doug Ford » est en haut de 50% il y a 4 mois de ça, et maintenant elle n'est plus que de 17%. Et ça, pour n'importe quel politicologue ou quelqu'un qui s'intéresse à la politique, ça veut dire que pour lui s'ouvre tout à coup une fenêtre d'opportunité avec un électorat pour lequel il y avait aucune chance. Et ça, je peux dire une chose, on se frotte les mains, et tout à coup il y a une instrumentalisation de ces points de presse-là, une instrumentalisation politique, que ce soit à Ottawa, que ce soit justement à Queen's Park, en Ontario et au Québec.
Bonjour tout le monde, alors mon masque est cousu par Mme Brochu dans la ville, c'est presque devenu l'émission de Pierre Marcotte, c'est une espèce de spectacle médiatico, bon enfant, c'est particulier, non?
Ah oui, c'est très très particulier, puis en ce moment, ne l'oublions pas, je veux dire, François Legault est tout seul sur la patinoire, là. Pour lui, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, ou en tout cas de grandes vagues politiques, où, tu sais, lui, il navigue sur une mer tranquille, puis pendant ce temps-là, ben il consolide son équipe aussi.
Oui, et devant lui, les libéraux se sont donné une chef un peu à la va-vite, qui est loin d'avoir fait ses marques pour le moment, même que les Québécois ne connaissent pas, en fait. Mais dites-moi, Sylvie Fortin, le temps mm-hmm. nous bouscule, et oui. Justement, toujours dans le même sujet, à savoir que François Legault est un peu seul sur la patinoire, là, le Parti québécois décide de remettre en branle sa course à la direction à compter du 5 juin, c'est très bientôt ça. Est-ce que c'est le bon moment? Et puis, est-ce que cette crise va avoir fondamentalement changé quelque chose dans cette course? Est-ce que des candidats imprévus pourraient émerger, ou est-ce que parmi ceux qui sont là, certains auront été servis ou non, ou desservis par l'épisode COVID?
Moi, je crois que pour un, en tout cas, Guy Nantel, tu sais, ça avait été tout un coup. Et je veux dire, il y avait le gros de, si on veut, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de visibilité, tout ça. C'est sûr que c'est long hiatus-là.
Il est complètement disparu, M. Nantel.
Il est complètement disparu. Et il y en a un, par exemple, qui continue à faire les manchettes. Puis pas toujours en tout cas, moi, j'ai certains malaises avec la manière, des fois, que Frédéric Bastien va choisir de faire ses sorties, puis tu sais, à toujours vouloir faire du millage sur la loi 21, sur les juges qui sont les juges qui seraient là partisans dans des dossiers. On comprend que ça le sert bien avec un segment de l'électorat, mais si le prochain chef du Parti québécois, c'est le chef qui va se présenter en campagne avec loi 21, chemin Roxane, puis tu sais, je sais pas, j'ai beaucoup de difficultés avec ça.
Oui, et en même temps, alors on peut être en total désaccord avec son propos ou sa démarche, et en même temps, on est obligé de constater, et vous le faites vous-même, qu'on parle de lui. Il est à peu près le seul dont on a parlé. Bon, un petit peu Paul Saint-Pierre Plamondon qui publie un texte ici et là, mais déjà, ça, c'est davantage les initiés là, qui ont remarqué ça. Peut-être que Bastien arrive à se placer, si on veut, dans les grands médias à heure de grande écoute, ce qu'aucun autre candidat n'a réussi à faire. Il y a tout de même ça comme résultat.
Mais je crois que c'est le bon moment pour repartir la course, tant et pour autant que on respecte aussi le fait que en ce moment les Québécois sont encore dans une espèce de combat, et dans ce magma là, si on veut, là, qui a complètement changé nos vies. Je ne sais pas si on est vraiment ouvert au débat acerbe et tout ça, on verra, mais il faut quand même la repartir à un moment donné, cette course là, et moi j'espère qu'on va débattre d'idées, qu'on va débattre de grands dossiers. Je veux savoir comment le Parti québécois va se démarquer de la CAQ. Je veux savoir comment...
Peut-être parler d'autre chose que de pandémie et de gestion de lits d'hôpital et de CHSLD.
Hein? Oui, tout à fait. Puis il y a un procès du fédéralisme à faire aussi dans ce qui se passe. Et puis, je veux aussi savoir, par exemple, moi, quand je vais m'intéresser à cette course-là, je veux savoir, tu sais, je veux dire, comment comment ces candidats-là vont réussir à remettre, si on veut, la question de l'indépendance et par quels moyens et selon quels axes. Il y a en ce moment, en tout cas pour moi, une ouverture très, très intéressante pour qu'on parle d'indépendance et qu'on parle d'environnement. Et ce qui va se passer là en ce moment, on le voit dans l'Ouest, puis on voit Justin Trudeau, tu sais, il est pas capable de se démarquer de Joe Biden parce que Joe Biden dit, nous, on passera pas Keystone XL. Puis c'est drôle parce que tout à coup, le premier ministre vert qu'on aime tant inventer dans le monde, ben c'est celui qui se dit, ben non, nous, on va défendre Keystone XL parce que lui, il a pas le choix parce qu'il est attaché en arrière par l'industrie pétrolière. Ça a toujours été comme ça. Tu sais, je veux entendre parler de ça. Je veux qu'on me parle de ces grands enjeux-là.
Alors, le dieu de la politique vous entende, Steve Fortin. On se quitte là-dessus. Oui. Nous allons discuter avec Stéphane Anfield maintenant. Mais merci beaucoup, Steve Fortin, puis à très bientôt.
Oui, certainement. Salut.
Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal. Dans un instant, nous allons peut-être rebondir sur cette question de la course à la chefferie du Parti québécois, puisque M. Anfield a un moment été pressenti comme candidat, puis il appuie finalement un candidat dans cette course. Mais là, c'est d'abord comme avocat spécialisé en droit de l'immigration que nous voulons lui parler dans un instant. Alors oui, signe peut-être que l'ancien monde politique cherche à renaître, à se déconfiner. Le débat d'idées veut peut-être se déconfiner lui aussi. Des sujets dont nous discutions avant la crise du coronavirus refont surface ces jours-ci. En effet, le ministre Simon-Jolin Barrette nous a présenté cette semaine sa réforme du fameux PEC, le programme de l'expérience québécoise. Vous savez, cette réforme qui avait été tant décriée à tel point que le ministre avait dû la retirer il y a quelques mois. Donc, M. Jolin Barrette, cette semaine, a présenté la nouvelle mouture de cette réforme et nous avons cru bon de discuter de tout ça avec Stéphane Anfield. Il est avocat spécialisé en droit de l'immigration. Bonjour, Maître Anfield.
Bonjour, M. Payne.
Alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette réforme du ministre Jolin Barrette? Est-ce qu'on a réussi? Écoutez, si je peux vous demander de faire un bref tour d'horizon pour nous, qu'est-ce qui accrochait tant dans la première mouture de la réforme et est-ce que ces écueils-là ont été évités cette fois-ci?
Ben, en fait, je vous dirais oui et non. Il y a des aspects très positifs des annonces que le ministre Simon-Jolin Barrette a fait cette semaine et des aspects cependant un peu plus négatifs. Vous savez, lorsqu'il avait présenté sa première mouture de modification du programme d'expérience québécoise, donc le fameux PEC, il y avait cette fameuse liste entre autres des emplois ou liste des programmes d'études qui donnaient ouverture au PEC, d'autres maintenant certains types d'études qui étaient retirés de cette fameuse liste lorsqu'il faisait en sorte qu'on avait des étudiants qui ne pouvaient plus se qualifier au PEC alors qu'ils s'étaient inscrits dans ces programmes-là. Vous aviez des directeurs de collèges, de cégep en région qui disaient c'est complètement absurde. On a de la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines et là, vous nous coupez la possibilité de recevoir des étudiants dans ces programmes-là qui vont justement par la suite pallier à cette pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines, bon, etc. Alors, le ministre, dans cette nouvelle proposition qui est soumise, il n'y a plus de liste. Alors, tous les domaines d'études vont donner ouverture au PEC, évidemment, si on rencontre les critères.
Alors, le PEC étant ce programme qui, je le dis pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, oui. Et la mienne en même temps, vous me corrigerez, c'est un programme qui permet à des étudiants étrangers de devenir plus rapidement. Expliquez-moi à quoi il sert exactement ce programme-là, finalement.
En fait, c'est le programme d'expérience québécoise. Alors, vous avez deux volets. Vous avez évidemment les étudiants étrangers, alors qui s'inscrivent dans un programme et qui peut donner ouverture à l'obtention du fameux certificat de sélection du Québec, donc le CSQ, mm-hmm. qui va par la suite donner la possibilité aux candidats de soumettre une demande de résidence permanente. Ou vous avez le programme régulier qui est maintenant ARIMA, qui est le programme d'immigration, donc de travailleurs qualifiés, qui est beaucoup plus long, les délais de traitement beaucoup plus longs. Donc,
voilà. Alors, le PEC compliqué. Est une espèce de voie rapide, et là, on disait, il y a de l'abus. Mais la prétention du gouvernement, c'était que certains abusaient. On voulait montrer qu'on serrait la vis là, un peu, qu'on restreignait l'accès à ce programme-là, dont on jugeait que certains abusaient, si je comprends bien.
Ouais. Ouais, entre autres, un des arguments, l'autre argument étant évidemment qu'on profitait de l'occasion pour diminuer encore les seuils d'immigration par cette façon de limiter l'accès au PEC. Bref, le ministre, bon, dans cette nouvelle mouture, toute cette fameuse liste, bon, vient de disparaître. Il y a d'autres aspects intéressants hein, dans l'annonce du ministre, entre autres le projet pilote pour les préposés aux bénéficiaires. Alors, c'est sûr que c'est un nouveau projet qu'il met en branle, on comprendra, hein, pour faire face à la COVID-19.
Ben oui.
Cependant, ben, ce projet cible des personnes qui sont présentement à l'étranger et qui ont déjà une expérience dans ce domaine de préposés aux bénéficiaires. Là où le bas blesse, c'est que tant et aussi longtemps que les frontières ne sont pas réouvertes, ben, on ne pourra pas aller chercher, on ne pourra pas faire venir ces personnes qu'on aura éventuellement sélectionnées, mais à tout le moins, il y a cette possibilité éventuellement de pouvoir recruter à l'étranger et de soumettre une demande de résidence dans ce programme-là. Il y a également l'ouverture, hein, le ministre l'a répété, il y a une ouverture afin de régulariser les préposés aux bénéficiaires, donc les demandeurs d'asile qui sont en attente de statut, mais qui travaillent présentement à combattre la COVID-19, donc comme préposés, entre autres, aux bénéficiaires. Alors, il y a quand même...
J'allais y venir, mais ça fait pas partie de la réforme du PEC, là, par contre. Le projet
pilote, c'est un projet qui vient... Parce qu'il faut comprendre que, ironiquement, dans cette nouvelle mouture du PEC, l'emploi donc de préposés aux bénéficiaires va être exclu de la possibilité de soumettre une demande de certificat de sélection du Québec. Parce que aux yeux du ministère, aux yeux du gouvernement, l'emploi, le titre de préposé aux bénéficiaires n'est pas un emploi assez qualifié, n'est pas assez important pour donner finalement ouverture à l'obtention du CSQ, du certificat de sélection du Québec. Alors ça, c'est avec cette nouvelle mouture du PEC, les préposés aux bénéficiaires seraient donc exclus. D'où j'imagine la volonté du ministre d'implanter un projet pilote afin de pallier à cette lacune-là. Mais c'est quand même, moi, je vois le projet pilote en lien, évidemment, avec la réforme.
Ah, ça s'inscrit dans la foulée de la volonté manifestée il y a 5 jours là, par François Legault de régulariser le statut des demandeurs d'asile qui travaillent en CHSLD. Du moins, M. Legault ouvrait une porte. Alors, c'est le résultat là, un peu plus concret, là, ce projet pilote du ministre Jeanlin Barrette?
Malheureusement, je suis obligé de répondre par la négative. Le projet pilote ne vise pas les gens qui travaillent actuellement comme préposés aux bénéficiaires.
Ah bon, d'accord.
Donc,
oui.
Des demandeurs d'asile, mais c'est plutôt des gens qu'on irait sélectionner à l'étranger. Alors que l'ouverture manifestée par le premier ministre n'a rien donné de concret encore du côté du ministre de l'Immigration. Il évalue la possibilité de trouver une façon de régulariser les demandeurs.
Bon, voilà, on a démêlé mes pinceaux. Nous revenons dans un instant à cette volonté manifestée en faveur de ceux qui travaillent dans les CHSLD au Québec, ici, maintenant, pour terminer sur le PEC. Alors, bref, au final, est-ce que le motif, l'objectif premier de la réforme du ministre Barrette demeure, Jeanlin Barrette, dis-je bien, demeure de restreindre, d'être un peu plus sévère, de serrer la vis? Qu'est-ce que tout ça aura donné au juste et comment qualifiez-vous finalement ce qui a été fait? Est-ce que vous auriez fait les choses autrement?
En fait, d'une certaine façon, on vient d'éliminer la fameuse liste, donc la barrière initiale qui avait tant fait décrier les modifications au PEC, pour finalement ajouter certains critères additionnels, certaines barrières. Entre autres, un étudiant, à la fin de son cursus, à la fin de son parcours, une fois qu'il aura obtenu son diplôme, ne pourra plus soumettre immédiatement une demande de certificat de sélection du Québec. Il devra, dans certains cas, justifier de 12 à 24 mois d'emploi actif sur le territoire québécois. Les travailleurs étrangers, la même chose. Au moment où on se parle, une fois qu'on a travaillé pendant 12 mois au Québec, on a la possibilité de soumettre une demande de CSQ dans le PEC. Ça ne sera plus possible. Il va falloir, dans certains cas, justifier d'une expérience de travail jusqu'à 3 ans, donc 36 mois. Donc, on vient, si vous voulez, d'une certaine façon, augmenter les critères, contrairement aux autres provinces canadiennes, pour l'obtention du CSQ, éventuellement l'obtention de la résidence permanente. Là où il y a une question importante, c'est est-ce que, présentement, il y aurait un droit acquis autant pour ses étudiants que ses travailleurs étrangers. Le ministre, en conférence de presse, nous a affirmé que oui, il y aurait un droit acquis. Lorsqu'on regarde cependant son projet de loi, force est d'admettre que c'est pas si clair qu'il y aura un droit acquis, entre autres, à un étudiant présentement qui est au bac, universitaire, première année, il s'est inscrit en fonction des règles qui sont actives présentement. Mm-hmm. Avec le nouveau PEC, ce n'est pas évident qu'à la fin de son parcours, il sera admissible à faire cette demande de certificat de sélection du Québec. Donc, le droit acquis ne semble pas être aussi clair que le ministre semble l'affirmer. D'autre part, je veux bien qu'on dise à un étudiant, tu vas devoir travailler pendant un an, deux ans, un travailleur étranger pendant 36 mois. Encore faut-il que le fédéral délivre les permis de travail. Imaginons qu'on oblige un étudiant à travailler pendant 24 mois, mais qu'il est impossible d'obtenir pour lui un permis de travail. Donc, c'est le chien qui court après sa queue. Là.
En effet, alors c'est compliqué, ces questions de lenteur bureaucratique qui peuvent intervenir ici aussi, sans doute. En terminant, Maître Enfield, donc cette volonté de François Legault, manifesté en tout cas, mais qui ne se traduit pas en gestes concrets pour le moment, de régulariser le statut des demandeurs d'asile qui travaillent en CHSLD. Vous avez émis l'hypothèse qu'on trouve par là une façon de leur donner justement le fameux certificat de sélection du Québec, mais les gens du gouvernement ont dit non, pas si vite, on n'est pas rendu dans ces détails-là encore, si j'ai bien compris. Comment on peut mettre en pratique cette volonté de François Legault? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il faut faire attention de ne pas créer un précédent, montrer aux gens qu'on peut avoir des passe-droits en immigration, finalement?
Mais en fait, ça ne serait pas un précédent, parce que dans le passé, on a déjà vu des programmes exceptionnels pour faire face à des situations exceptionnelles qui donnaient justement ouverture à la résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire. On se rappellera, entre autres, en janvier 2010, suite au tremblement de terre en Haïti, la ministre de l'Immigration de l'époque, avec la collaboration du gouvernement fédéral, avait élargi la notion de rééducation familiale afin de permettre à des Haïtiens de pouvoir parrainer des membres de la famille qui, autrement, n'auraient pas pu le faire. Donc, on avait élargi cette notion-là pour permettre justement pour des considérations humanitaires.
Alors, ces choses-là se font, ce ne serait pas un précédent.
Dans les années 90, entre autres pour la communauté algérienne, le ministre de l'immigration de l'époque, Denis Coderre, avait, avec son homologue du Québec, je me rappelle bien à l'époque, c'était M. Trudel, avait instauré un programme spécial de considération d'ordre humanitaire pour la communauté algérienne afin de leur permettre de soumettre des demandes de résidence permanente pour des considérations humanitaires. Donc, de toute façon, ce principe-là s'inscrit dans la loi et c'est un pouvoir discrétionnaire du ministre qui existe. Alors, ce n'est pas de contourner les règles, c'est une façon de faire les choses. Donc, de pouvoir réagir de façon exceptionnelle pour faire face à une situation exceptionnelle. Je pense que la COVID-19, on peut dire que c'est une situation exceptionnelle.
Eh bien, Maître Enfield, on ira dans le détail, dans la mécanique de ces possibilités-là, peut-être une autre fois. Et puis, je pense qu'on va vous entendre ou vous voir dans le cadre de la course à la chefferie du Parti québécois qui reprend, là.
Ben ça reprend la semaine prochaine. Alors on a hâte de pouvoir aller à la rencontre des militants et des militantes. Espérons qu'ils seront au rendez-vous malgré la crise qu'on vit actuellement.
Bon, alors distanciez-vous bien et merci d'avoir été avec nous ce midi. À une prochaine.
Ça fait plaisir.
Dans un instant, chers auditeurs, nous poursuivons une discussion entamée il y a une semaine ou deux avec Mathieu Bock-Côté sur les constats qu'on peut tirer de la crise actuelle. À tout de suite. Alors, on a assisté au cours des deux derniers mois, et plus même, depuis la mi-mars, à une espèce d'assèchement des débats politiques et idéologiques, si on veut, à la faveur d'une politique gestionnaire. On compte les lits, on dresse des statistiques, on dresse des constats, on est vraiment dans la gestion. entourant cette crise, là, par exemple, quand on parle des CHSLD, quand on parle des de ces lits d'hôpitaux, donc qu'on a veillé à rendre disponibles pour les gens touchés par le fameux coronavirus. Enfin, bref, on a vu s'éclipser, disparaître un peu le débat politique tel qu'on l'avait connu. Outre, bien sûr, cette question philosophique plus profonde là, que soulève la crise, c'est-à-dire sur notre rapport au vieillissement, à la vieillesse et sur ce qu'on fait finalement des personnes âgées. Comment se fait-il, par exemple, qu'au Québec, elles soient si nombreuses, beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs, à vivre en centre pour personnes âgées ou en CHSLD? Mais outre ça, il est vrai que le débat politique habituel a un peu pris le bord, si je peux parler clairement, crûment comme ça. Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal, dans le Figaro également, est avec nous pour parler de ça et d'autres choses. Bonjour Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Est-ce qu'on s'ennuie du débat politique? Est-ce que je me trompe en disant qu'il a un peu disparu au profit de débats de gestion?
Bien, j'ai deux choses. C'est-à-dire, premièrement, je pense que oui, on s'ennuie d'autres sujets, mais ça, c'est une forme de lassitude devant une existence qui est aplatie en ce moment dans les seuls impératifs de la survie. Donc, on gère, on est en situation de crise, mais un peu par définition, quand la guerre est là, elle relativise les autres débats. Quand l'urgence sanitaire s'impose à nous comme ça, il y a bien d'autres débats qui s'éclipsent pendant un temps. Parce qu'ils reviennent ensuite. On l'a vu, on peut dire qu'à la rigueur, il y a eu une pause qui a été prise pendant quelques semaines, mais tous les autres débats reviennent, que ce soit la question du français à Montréal, la lecture de l'histoire de Montréal, la question nationale. Donc, tout ça revient. Ensuite, je dirais que la pandémie ne fait pas disparaître, transforme, je dirais, les autres débats qui sont les nôtres. La question nationale, me semble-t-il, est au centre de la pandémie en ce moment, bien qu'on ne la nomme pas comme telle. On le voit sur la question de l'armée. C'est-à-dire, on n'arrête pas de dire que le Québec, s'il était comparé à tel ou tel ou tel autre pays, sera en bien mauvaise position dans les différents classements. Mais au même moment, on oublie qu'on n'est pas un pays et que les différentes ressources qu'ont eu des autres pays pour se protéger dans la pandémie, nous n'en disposons pas. Et quand on veut avoir recours à l'armée, parce qu'on croit que c'est nécessaire dans les circonstances, on nous présente ça comme une grâce incertaine du régime fédéral et non pas comme un service pour lequel les Québécois payent et auquel ils peuvent avoir affaire lorsqu'ils en ont besoin, selon leurs intérêts nationaux. Donc, on nous présente comme un cadeau du Canada, un service pour lequel nous payons et nous ne sommes pas maîtres pour juger nous-mêmes de nos propres intérêts fondamentaux. Donc, la question nationale est très présente dans la pandémie. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois que ces débats-là se réapparaissent, mais teintés par un contexte nouveau.
Alors, si on veut, ils cherchent à sortir à se métamorphoser, comment dire, à reprendre la main en s'adaptant au contexte, si on veut, ou en tout cas, le contexte, les faits nous les montrent sous un autre angle, mais ils sont toujours là, c'est ce que vous nous dites, d'une certaine façon.
La réalité est là, c'est-à-dire, est-ce que le Québec, pour affronter la pandémie, dispose de tous les outils dont il pourrait disposer s'il était maître chez lui? La réponse, c'est non. Ah, ben c'est étonnant. Est-ce que le Québec peut, par exemple, s'assurer que tous les produits dont il a besoin vont être dans sa propre langue? Hein? Eh bien, non, on ne peut pas. Mais la question de l'armée me semble vraiment la plus centrale dans les circonstances parce qu'on affronte une crise. On dit, ben là, on a besoin de ces moyens-là parce que la crise est particulière. Et là, le régime fédéral nous fait la grâce pendant quelques semaines de nous prêter ses soldats, peut-être, mais il les reprend quand il veut. Et il nous accuse d'être mauvais gestionnaire de notre propre situation ensuite et il va prendre prétexte de ça pour centraliser.
Oui, remarquez qu'il y a une fausse note dans ce concert-là, c'est que l'armée elle-même, comme vous le savez, M. Bock-Côté, a émis ses rapports distincts, là, l'un pour l'Ontario, l'autre pour le Québec, sur ce qu'elle a pu constater dans les CHSLD ici et les centres pour personnes âgées là-bas. Et pour une fois, c'est pas le Québec le mauvais élève. Alors, c'est pas glorieux ce qu'on dit de nous dans ça, mais c'est moins pire, si on veut, que sur l'Ontario.
J'ajoute un élément là-dedans. Personne ne va dire ensuite que la société québécoise est parfaite. Hein. Je veux dire, il y a suffisamment de choses à critiquer ici. Pardonnez-moi, notamment justement la question de qu'est-ce qu'on a fait des personnes âgées dans notre société? Comment on a géré l'allongement de la vie? Comment on a géré l'allongement de la vie dans un contexte où la structure familiale se décomposait? Comment on a géré l'allongement de la vie dans un cadre où on croyait qu'à partir d'un certain âge, l'individu, il fallait presque l'expulser de la société parce que c'était plus une force productive? Hein, il y a quelque chose d'assez cruel et bête dans ce rapport à la vieillesse. Mm-hmm. Toutes les sociétés occidentales se posent ces questions, cela dit. Il se peut que le Québec, enfin, il est certain que le Québec Québec à travers les CHSLD, et tout, en fait, de mauvais choix. Pas intégralement, mais manifestement, il y a eu de mauvaises décisions qui étaient prises au fil des décennies. OK, d'accord, ça, on en convient. Mais à ce que j'en sais, aucune société n'est parfaite en la matière. Donc, je dis qu'on se critique sévèrement, mais qu'on n'oublie pas qu'on ne dispose pas de tous les pouvoirs nécessaires pour affronter cette crise. Mais ensuite, on fait comme si on les avait. Étrange. Donc, autrement dit, tout ça pour dire que la question nationale est au cœur de la pandémie, mais elle apparaît sous un visage nouveau et certains peinent à la saisir. Quant à François Legault, par rapport à l'armée, je me dis qu'au fond de lui-même, il doit se rappeler les convictions qui ont été les siennes pendant à peu près une cinquantaine d'années dans les circonstances. Il doit se rappeler pourquoi en d'autres temps il fut souverainiste.
Peut-être. Peut-être nous écoute-t-il et se posera-t-il la question maintenant que vous la lui suggérez. Prenons un peu de recul par rapport au Québec et au Canada, à la question nationale, plus largement. Ou pas, là, on peut rester ici au Québec, mais comme vous venez de le dire, nous ne sommes pas si différents de plusieurs autres nations occidentales. Nous sommes donc devant notre rapport à la vieillesse, au vieillissement dans cette société où on jette les gens qui ne sont plus assez productifs, peut-être. Est-ce qu'on a bien fait de confiné comme ça? Est-ce qu'on est devenu peureux? Est-ce que nous sommes dans une espèce d'épisode ultime là, de la société, d'une société qui vit au rythme des préoccupations des baby-boomers? Est-ce que, par exemple, si cette crise était arrivée en 1975, on aurait eu les mêmes réflexes? Est-ce qu'on a peur? Comment vous voyez ça, M. Bocoté?
Moi, je commence en disant que je ne suis pas un expert en santé publique et devant ça, je regarde la situation comme... Appelons ça comme un quidam informé, c'est-à-dire j'essaie de me faire une tête sur tout ça, mais il y a toute une série de données épidémiologiques qui m'échappent, qui vous échappent probablement aussi, qui échappent à plusieurs, disons. Donc là, on regarde ça, on essaie de se faire une tête. Si on traite la question sur le plan politique, je dirais que nos leaders ont été dans une situation où ils ont dû faire face à un inattendu absolu. Hein, c'est la figure du tragique qui revenait, de l'inattendu qui bouleverse tout. Comment réagir dans les circonstances? Comment éviter que le système explose? Comment faire devant un ennemi insaisissable, indéfinissable, qu'on peinait à comprendre et qu'on peine encore à comprendre? Moi, j'ai une pas indulgence, pas le bon mot, mais j'essaie de me placer dans la peau de ceux qui nous gouvernent pour me dire, bon, ben, ils ont fait ce qu'ils ont cru devoir faire. Ils ont agi au mieux de leur capacité. Et quand j'entends dire, dans les faits, c'est qu'ils sont au service de je ne sais quelle conspiration, ça me rend un peu dingue. Parce que là, ils cherchent à faire ce qu'ils peuvent dans une situation tragique à laquelle personne n'était préparé. Je veux dire, Justin Trudeau est entré en politique pour parader, faire le beau et honorer la mémoire de son père. François Legault est entré en politique pour être capable de repartir la machine Québec. Emmanuel Macron pour moderniser la France sur le mode école. Tout le monde, d'une manière ou d'autre, Donald Trump pour faire autre chose. Ils ont tous été surpris par une crise immense et chacun a réagi. Ensuite, on peut être sévère envers certains. On peut être sévère, par exemple, envers... la décision du Québec dans le traitement des CHSLD. On peut être très sévère, et ça, je le suis, envers Justin Trudeau, les fonctions fondamentales de l'État fédéral, qu'est-ce que c'est? C'est les fonctions régaliennes, les frontières, l'armée, tout ça, et surtout les points qui relèvent d'Ottawa, vraiment. Ottawa a fait faillite. On peut être très sévère là-dessus. Bon, une fois que tout ça est dit, le confinement semblait nécessaire, et je ne suis pas de ceux qui reprochent au gouvernement de l'avoir fait. Ensuite, la question, c'est la difficile étape du déconfinement. Hein, on ne s'y attendait pas, mais ce qui est difficile, c'est moins de confiner que de déconfiner.
Oui, ben c'est la raison pour laquelle certains n'ont pas confiné, c'est parce qu'ils craignaient, c'est le cas des Suédois, on a dit on veut pas confiner parce que déconfiner sera très compliqué, mais oui. Je vous ramène un instant sur la suite du sujet précédent parce que j'ai peut-être mal fait la jonction quand je parlais de cette société qui a peut-être un mauvais rapport au vieillissement et des baby-boomers.
Une société des boomers nous impose leur... Maintenant, ils ont peur de mourir, donc ils confinent la société. Je comprends ça très bien.
Mais c'est pas dans un sens... Moi, je ne suggère pas la réponse en posant la question. Je me dis, on va probablement devoir réfléchir à ça à un moment donné parce que c'est quand même exceptionnel comme situation.
On ne peut pas rester éternellement confiné. Manifestement, plus on en sait sur le virus, plus on sait qu'il frappe certaines catégories d'individus vulnérables. Par ailleurs, on constate que les catégories vulnérables ne sont pas encore pleinement définies. Les diabétiques, ceux qui ont des maladies chroniques, les gens de plus de 70 ans, 60 ans selon certains, ça fait beaucoup de monde quand même. Donc là, on tâtonne, on cherche à voir comment faire. Je pense pas que les boomers nous ont imposé quoi que ce soit dans les circonstances. On a eu une réaction normale sous le signe de la santé publique qui me semble compréhensible. Ensuite, maintenant, c'est l'étape qui suit, parce que si on veut avoir à tout prix de la lorgnette boomer, ben les boomers veulent pas non plus. Ils ont misé sur une vieillesse longue et heureuse.
Oui, Liberté 55, ça fait longtemps. Ils ont envie de sortir. Oui.
Et là, ils ont pas envie de rester confinés éternellement. Bon, mais de leur point de vue, leurs intérêts croisent ceux de l'ensemble de la société qui n'a pas envie de rester confiné éternellement non plus. On se demande comment gérer le déconfinement. Je trouve que globalement, ça tout le monde, tel que je le vois au quotidien, hein, je prétends là-dessus, je me fie à ce que je lis dans les journaux et à ce que je lis au quotidien. Globalement, les gens ont intériorisé des règles et des normes, pas parfaitement. Il y a toujours des contrevenants partout, il y a toujours des petits voyous. Mais globalement, on a intégré l'idée qu'il y avait une situation nouvelle. Et pendant un certain temps, je crois que ça va modeler nos comportements. Mais le fait est qu'on a on a de plus en plus de catégories vulnérables, elles ne sont pas toutes identifiées. Je conçois qu'on a un souci hygiénique plus marqué, tout en sachant qu'une société ne peut pas avoir comme seul horizon d'avoir un environnement le plus hygiénique possible, parce qu'à travers ça, sinon, c'est la régression constante des libertés.
En effet, vous avez parlé de des gens vulnérables, notamment les gens en surpoids. C'est vrai qu'on en parle peu, hein? Il faudrait peut-être jaser de ça avec Martin Matt, qui ces jours-ci s'est brûlé un peu au jeu des blagues sur le surpoids. Au bénéfice de nos auditeurs, c'est cette publicité pour un grand supermarché dans laquelle l'humoriste explique qu'il ne fait rien d'autre que s'empiffrer depuis qu'il est en confinement, et il porte ce costume, il est gros. Bon, est-ce que Mathieu Bock-Côté, au sortir de cette crise, nous sommes encore dans la rectitude politique que vous dénoncez tant?
Ah oui, ça, non, mais c'est, la rectitude politique, ce n'est pas qu'une mode, c'est un régime. C'est la modalité d'un régime, c'est un dispositif au sein d'un régime. On est dans une société victimaire qui tend à sacraliser toutes les positions minoritaires possibles, où la présence, je suis une victime, donc je suis, hein, c'est le langage de l'époque. La condition d'accès à l'espace public, c'est généralement de se victimiser, quelle que soit la catégorie. Je donnais récemment dans une autre entrevue l'exemple suivant. Je connais beaucoup de gens qui ont à peu près mon âge, qui à 20 ans, mettons qu'ils sont d'origine portugaise ou ils sont d'origine, pour réunir les fameuses origines, mais qui à 20 ans se définissaient comme des Québécois, simplement, des Québécois. Puis leur histoire, c'était l'histoire du Québec. Puis oui, à la maison, il y avait une sensibilité particulière pour tel ou tel sujet, tel plat, telle chanson, ainsi de suite. Mais leur espace de référence, c'était l'espace Québec. 20 ans plus tard, quand on leur parle, ils se définissent d'abord par leur extériorité par rapport au cadre national. Ils vont se dire d'abord portugais, iranien, argentin, faites la liste, ainsi de suite. Donc, c'est comme si notre société poussait, autrement dit, chacun à se définir, à se victimiser par rapport au camp national dont on se veut exclu, ou par rapport au grand méchant homme blanc qui est l'espèce de terrifiant monstre qui domine notre temps. Donc là, les victimes se multiplient avec les mots en phobie, et toute différence est pensée désormais comme une discrimination et comme une discrimination illégitime. Et le simple fait désormais d'être en bonne santé plutôt qu'en mauvaise santé est vu comme une discrimination illégitime à l'endroit des obèses ou des gens en surpoids. Bon, ben là, c'est le réel ne passera pas. Telle est la devise de notre époque. On vit quand même dans une époque qui considère qu'être homme ou femme, c'est pas une réalité biologique et anthropologique fondamentale, c'est un choix parmi d'autres dans l'éventail des identités sexuelles disponibles. Bon, le réel ne passera pas. 2 plus 2 égale 5. Et puis, être obèse ou être mince et en santé, c'est la même chose.
Oui.
Ça, c'est l'espèce d'inversion du rapport au réel d'une société qui génère des névroses idéologiques et qu'il faudra bien nommer d'une manière ou de l'autre.
Alors, évidemment, je ne vais pas dire à nos auditeurs que tout de suite après la publication de cette publicité, ben Martin Matt a reçu le couperet de la rectitude lui est tombé dessus et la publicité a été retirée. Le supermarché en question s'est excusé et puis voilà, tout le monde est content. Mathieu Bock-Côté, il faudra qu'on poursuive encore une autre fois. Mais je retiens donc de notre entretien que pour vous, ce confinement, draconien, cette expérience inédite pour nous tous, n'est pas nécessairement la manifestation d'une époque craintive ou douillette ou quelque chose comme ça.
C'est la réaction d'une société, d'une civilisation, d'un monde qui est frappé par une menace inattendue, et on cherche à prendre la meilleure solution possible tout en sachant qu'il n'y a pas de solution idéale et qu'on n'est même pas certain d'avoir fait le bon choix. On fait ce qu'on peut. La politique, quelquefois, c'est la logique du moindre mal. On verra dans 10 ans.
Ben c'est parce qu'on a l'exemple, évidemment, de de l'exemple achalant, en bon québécois, de la Suède, qui est là, qui a pris des risques, qui paie un certain prix, là, si on se fie à ces statistiques dont vous avez si bien dit, Mathieu Bocoté, qu'on peut difficilement savoir de quoi on parle quand on parle de ça, parce qu'il faudra beaucoup de recul là, pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, à tout le moins, pour le moment, la Suède ne présente pas un bilan formidable, mais elle assume complètement son choix d'avoir très peu déconfiné, en se disant que ben, il faut continuer de vivre et puis qu'on va bien finir par avoir une forme ou une autre d'immunisation ou d'immunité collective qui nous permettra de peut-être même à long terme mieux traverser la crise.
Alors, c'est possible, on est dans le domaine de l'inattendu, de l'imprévu, on tâtonne, on fait ce qu'on peut. On n'est pas en ce moment dans le domaine de l'affrontement des grands projets idéologiques distincts. On est dans une situation de gestion. Encore là, au moins, quand c'était l'ennemi traditionnel, quand c'était une guerre classique, on savait c'était quoi l'uniforme de l'ennemi, on savait bon, vers où tirer, puis de qui esquiver. Hein, c'est la figure de la guerre. Là, on est dans la guerre sanitaire. On est devant un ennemi visible qui peut prendre le visage d'une gouttelette. Une gouttelette qui traîne peut d'un coup envoyer notre parent à la morgue. Bon, on regarde ça, puis on se dit, bon, OK, on va chercher à faire ce qu'on peut pour au moins prendre une pause pour voir comment réagir par rapport à ça. Ben, ensuite, là, le problème, c'est que ça engendre une crise immense, mais ça, je le répéterai toujours parce que j'en suis convaincu. On a vécu, après la Deuxième Guerre mondiale, globalement, dans les démocraties occidentales, donc Europe de l'Ouest plus Amérique du Nord, une forme de période presque bénie de l'histoire, c'est-à-dire de prospérité, de société presque réconciliée, d'abondance, on pensait que tout irait bien. Puis après la chute du mur de Berlin, on s'est même dit que le monde allait s'unifier, c'était la prospérité. Bon, non, l'histoire est tragique et les bulles de prospérité et de réconciliation et d'harmonie sont assez rares dans l'histoire. La loi de l'histoire, c'est davantage le tragique que l'harmonie. Il se peut qu'on retourne simplement à la normale, aussi triste que ce soit.
On apprend aussi en ce moment que, enfin, certains apprennent peut-être que en s'étant très, très écologiste, que la nature que nous vénérons tous d'une certaine façon, la nature c'est tout, c'est nous, nous en sommes issus. En même temps, ça peut être notre ennemi. Il arrive que dans l'existence humaine, on doive se battre contre elle d'une certaine façon. C'est ce qu'on apprend en ce moment, non?
Moi, je suis comme tout le monde. Moi, j'aime poétiser les rivières, j'aime poétiser les belles plages. Je trouve que la nature, c'est le beau, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un ciel magnifique, c'est inspirant. Mais la nature, c'est aussi un nombre considérable de saloperies. Et l'homme s'est construit en asséchant des marécages, en construisant des villes, en luttant contre des virus, en luttant contre la nature. En fait, il y a quelque chose de prométhéen dans la civilisation occidentale. Il y a un feu prométhéen, c'est-à-dire que l'homme cherche à devenir le maître du monde par la science. Alors, ça devient un délire quand il croit devenir le créateur du monde. Hein, c'est-à-dire, quand il croit pouvoir presque faire refabriquer l'humanité en laboratoire.
Être Dieu, oui, c'est ça.
Voilà, lorsque l'homme se veut démiurge, bon, ça c'est pas une bonne idée. Mais par la science moderne, l'homme a développé des techniques immenses. On est capable de lutter contre la maladie, la lutte contre le cancer, par exemple, qui est toujours assez intéressante intellectuellement, mais ça a permis à nos sociétés de vaincre une saloperie intégrale. Pas le vaincre, en fait, pas du tout, même, mais être capable de faire des petites victoires, et petites victoires sur petites victoires, on est capable de vaincre des choses qui, il y a 50 ans encore, pouvait jeter une vie en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années par terre. Donc, la science nous a donné un moyen immense sur la nature, mais il s'agit de domestiquer une planète qui n'est pas qu'un lieu hospitalier. Puis on pourrait même dire qu'une bonne partie, pendant longtemps, tout le moins, de l'art du jardin, pour reprendre la formule, ça consistait à domestiquer la nature et à l'aménager selon l'esprit humain. Il y avait quelque chose là-dedans, développer un rapport à la nature qui soit sain. On ne peut pas simplement vouloir la servir, la dominer, la traiter comme des matériaux et des ressources, mais on ne doit pas non plus l'idolâtrer à la manière d'une forme de païen primitif, parce qu'alors là, quelquefois, elle se venge et elle peut jeter une civilisation par terre.
Alors, on voulait vérifier avec vous, Mathieu Bocoté, non seulement si les débats politiques pourraient refaire surface, mais même si de nouveaux débats pourraient naître de l'épisode actuel, il semble bien que oui, ou en tout cas, ça nous amène beaucoup de réflexions à nouveau. Merci, Mathieu Bocoté, d'avoir été avec nous ce midi, et bon déconfinement progressif, distancié, prudent.
Au grand plaisir.
À une prochaine. Dans un instant, chers auditeurs, Nicolas Vidal en direct de Paris. c'est le fondateur de Pouch Media. Il est très occupé en ces temps de pandémie. Il reçoit quotidiennement des invités politiques, artistiques et autres. Mais là, c'est à notre tour de le recevoir en direct de Paris. Nicolas Vidal. Bonjour, Nicolas Vidal.
Bonjour, Nick. Comment allez-vous?
Ah oui, on se déconfine, ça va bien. Vous aussi, je crois. Dites-moi, Nicolas, est-ce que qu'est-ce qui reste, avant qu'on se plonge dans la situation politique, là, qu'est-ce qui reste à déconfiner chez vous? Où en êtes-vous en France aujourd'hui?
Bon, ben, à part la démocratie à déconfiner, bon, ben, la liberté de surveiller est terminée. Là, le printemps est arrivé. On peut se déplacer à plus de 100 km à partir de mardi 2 juin. La réalité, en fait, c'est que le confinement ici était devenu un peu intenable et ingérable. Et les autorités ont dû accélérer le mouvement. Et on pourra en reparler parce qu'il a fallu finalement enlever, vous savez, le couvercle de la cocotte. D'ailleurs, à Paris, certains cafés auraient même ouvert leurs terrasses, hein, contre d'ailleurs les recommandations, contre la loi.
Ah
les
bon
grands magasins parisiens aussi ont rouvert, vous savez, Haussmann, Le Printemps, qui est en plein cœur d'une, et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Par contre, elle continue d'accumuler les boulettes et les contre-vérités. Donc, la France sort de la crise, nique, hein, mais s'enfonce dans l'amateurisme abyssal de son exécutif chaque jour un peu plus. Voilà la situation ici.
Mais alors, sur le très pratico-pratique des confinements, est-ce qu'on peut aller se balader comme touriste, ben pas comme touriste, mais en fait, sur les Champs-Élysées, magasiné comme si de rien n'était?
On peut, effectivement. Les parcs ont ouvert ce matin à Paris, donc grand émoi de contentement pour les Parisiens qui ont pu aller fouler les parcs et les pelouses de Paris. Donc on arrive petit à petit à une période normale. Je ne vous cache pas qu'ici, les bars n'ont pas ouvert, mais les trottoirs sont pleins de jeunes gens le soir qui boivent des breuvages alcoolisés.
Et voilà. La culture, les salles de spectacle, les cinémas, dites-moi un peu comment ça se produit ici. On se pose toutes sortes de questions là-dessus. Le milieu culturel est en frustration devant l'absence de plan de notre gouvernement. Chez vous, le président Macron a annoncé le déconfinement de la culture, non?
Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on nous a... tous les festivals ont été annulés, vous savez, comme au Québec, mais ici, il y a beaucoup, 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 beaucoup de festivals tout l'été.
Hein, ne serait-ce que Cannes, hein, c'est ça, oui.
Et c'est extrêmement, un tissu extrêmement important, mais par contre, là, on a accéléré les choses et il se pourrait que les cinémas et les théâtres réouvrent dans le courant du fin du mois de juin. Voilà, donc on a accéléré, donc on a fait fermer tous les festivals, on les a tous annulés, mais par contre, contre toute attente, les cinémas et les théâtres pourraient ouvrir d'ici 3 semaines à peu près. Voilà.
Y compris, donc, les salles de spectacle. Vous voulez aller voir un humoriste ou une pièce de théâtre, c'est de ça dont on parle, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, exactement. Pour l'instant, ça serait sur ces cordes-là. Donc, le monde du spectacle attend, bien entendu, les dates et, vous savez, les protocoles.
Ah oui, voilà. Alors voilà où vous en êtes. Et donc, vous me dites que, politiquement, ça coince encore, Nicolas Vidal. L'heure est au bilan et au retour sur les...
Ça s'embourbe.
Alors, expliquez-nous.
Alors, rapidement, vous l'avez vu, hein, l'étude de The Lancet, hein, l'étude contre la chloroquine, ici, qui fait un débat. Beaucoup de voix, aujourd'hui, se sont levées pour dénoncer les imprécisions, les approximations de cette étude.
Et ah oui, cette étude du Lancet, ou Lancet, je ne sais pas comment on prononce, là, qui avait mené à ce qu'on bannisse le fameux traitement à l'hydroxychloroquine, et finalement, une vague de protestations, y compris chez les scientifiques, et y compris chez ceux qui ne sont pas pour autant des partisans du docteur Raoult, du professeur Raoult et de son traitement. Donc, on dénonce la mauvaise qualité de cette étude, c'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça, et vous l'avez très bien dit, Nick, il y a aujourd'hui des gens qui n'étaient pas forcément des spécialistes, des médecins, des professeurs, des scientifiques, qui ne sont pas forcément pro Didier Raoult, professeur à Marseille, et qui dénoncent l'impéritie finalement de cette étude, qui a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses nébuleuses, beaucoup d'approximations. Je ne rentrerai pas dans le débat parce que je ne suis pas scientifique, mais effectivement, aujourd'hui, ça cristallise en France, c'est un énorme débat qui commence à s'installer, et ça pourrait avoir des odeurs de scandale. Imaginez qu'on arrive à prouver que la chloroquine, l'hydroxychloroquine soit efficace. Il y a des gens qui vont devoir faire marche arrière 2 mois après, ça va être très très compliqué en termes de légitimité et en termes de peut-être de procès. Si jamais les responsables politiques n'ont pas jugé bon de l'utiliser, peut-être que ça pourrait donner lieu à des nouvelles plaintes, parce qu'elles sont nombreuses en ce moment en France, les plaintes.
En effet, et si je comprends bien, la fameuse valse hésitation sur les masques, par exemple, on n'a toujours pas pardonné ça à l'exécutif, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment, chez vous, dans une forme de révolte à l'endroit des décisions du gouvernement tout au long de cette crise?
Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez les masques, vous avez le professeur Raoult. C'est-à-dire que ce que ça incarne, ce que ça cristallise, ces histoires-là, déjà, c'est un mensonge d'État concernant les masques. Mais sur les masques, Raoult et d'autres, professeur Raoult, pardon, et d'autres sujets extrêmement importants, ça cristallise la fracture absolue entre la France périphérique et les élites. Les élites, j'entends la classe politique au pouvoir, l'exécutif, mais également toute une partie de la classe médiatique. Un exemple très simple, les chaînes info, pour la plupart, ont tapé à bras raccourcis sur le professeur Raoult. Elles ont invité des gens qui lui ont tapé dessus. Donc finalement, ça a réincarné cette espèce de fracture. Je vais le dire, ça peut être un peu analogique, mais concrètement, vous avez cette fracture absolue. On repense aux gilets jaunes, les anti-gilets jaunes, les pro-gilets jaunes. Et là, on se retrouve, ça s'est déplacé sur le professeur Raoult qui incarne aujourd'hui la fracture entre Paris et le reste de la France.
Mais justement, Nicolas Vidal, est-ce que c'est à nouveau vraiment la fracture des gilets jaunes, le peuple d'en bas contre l'élite? Ou est-ce qu'il y a aussi une sorte de fracture entre une espèce de bien-pensance confortable qui n'est pas toujours nécessairement bourgeoise, là, je ne sais pas, vous allez me le dire, et de l'autre côté du spectre, des gens qui disent « Attendez un peu, non, on est ici dans une situation inusitée, il faut réfléchir en dehors des cadres habituels. » Il y a ça aussi, dans une espèce de paresse, par exemple, dans les médias dont vous parlez, là.
Ça se mélange, bien entendu, mais c'est vrai que là, je crois que la fracture est extrêmement prégnante et ça pose un très très gros problème parce qu'on continue, effectivement, il y a vraiment un parti pris manifeste aujourd'hui d'une certaine partie de la classe politique et de certains grands médias et le professeur Raoult, certains ici intellectuels bien assis dans les salons cotonneux des chaînes info, sur le plateau de chaînes info, on va parler même de gilets jaunisation de l'affaire Raoult, de la polémique autour de Didier Raoult. Donc vous voyez bien, Nick, que finalement, à la différence que cette fois-ci, vous avez sur le tapis 30 000 morts en France. 30 000 morts. Donc, quand même, le problème est beaucoup plus vaste qu'avec les gilets jaunes. Mais je crois que c'est une crise absolue qui est vraiment extrêmement émergente là-dessus et qui fait encore plus sortir cette fracture que la France connaît aujourd'hui.
Sociale. Donc, alors, au fond, la crise a été un révélateur du problème français qui l'a précédé, finalement. C'est ce que vous nous dites, Nicolas Vidal.
Oui, et puis vous avez aussi la défiance de la parole publique. Quand vous avez un gouvernement qui vous ment sur les masques, alors déjà que la parole publique n'était pas portée bien haut, n'était pas portée au nu depuis quelques années, là aujourd'hui, on est passé au mensonge. Donc vous imaginez bien que le divorce est absolument consommé. Les gens ne croient plus à la parole publique, à la parole politique. Et un exemple très rapide sur l'application Stop Covid. Le gouvernement a développé une application Stop Covid pour éventuellement arriver à détecter le virus ou détecter si vous croisiez quelqu'un qui avait le Covid-19 de manière à vous alerter. Voilà. Et aujourd'hui, ils font des pieds et des mains pour essayer d'expliquer que c'est une application valable, mais les gens n'y croient plus. Donc même si l'application Stop Covid qui pose probablement des données, vous avez des problèmes de conservation de données personnelles, les gens ne veulent pas en entendre parler de cette application. Il y a très peu de gens qui vont la télécharger.
Alors, Nicolas Vidal, en quelques mots, quelles sont les suites politiques possibles? Est-ce que c'est Marine Le Pen qui récolte le fruit, j'allais dire électoral, en tout cas politique, de cette situation? Est-ce que le coronavirus aura été le dernier clou dans le cercueil du quinquennat d'Emmanuel Macron?
Ah, ça va être une tâche indélébile, bien entendu, ça c'est sûr et certain. Ce qui attend aujourd'hui dans les prochains jours, je parle de jours, voire de semaines, c'est une tempête sociale sans précédent. Aujourd'hui, un rappel, le groupe Renault va fermer, va licencier ou mettre sur le carreau près de 4600 emplois en France. Vous avez une manifestation aujourd'hui dans le nord de la France, à Maubeuge, qui a réuni des milliers de personnes. Et ça, c'est en train de faire tache d'huile avec aujourd'hui le socle social d'explosivité sociale, ce que j'appelle moi la poudrière sociale. Donc est-ce que Marine Le Pen en tirera les marrons du feu? J'en suis pas convaincu. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'avec le syndrome Renault de ces licenciements d'emplois, on se retrouve une nouvelle fois avec le gouvernement qui n'est là que pour constater une politique néolibérale dont les grands groupes, finalement, en termes de rentabilité accélérée, bien sûr par la crise, ils sont obligés de faire des économies importantes, donc ils vont licencier. Et l'État laisse faire, parce que l'État français est absolument impuissant. Et Emmanuel Macron, je crois qu'il n'a toujours pas changé d'optique sur sa politique néolibérale. Et la crise du Covid-19 n'y changera absolument rien. d'où la grosse incertitude politique, sociale, je vais même dire populaire, des prochaines semaines. Et une grande manifestation, pour terminer, est annoncée par le personnel soignant le 16 juin en France. Je vous rappelle, dit que la loi d'urgence sanitaire aujourd'hui interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes. Donc, c'était des camouflets à l'exécutif chaque fois que les gens se réunissent. Donc, quand la manifestation de Maubeuge est tenue tout à l'heure, c'est un pied de nez à l'exécutif, parce qu'il est interdit aujourd'hui de se rassembler à plus de 10 personnes. Ça sera 50 personnes pour le 2 juin. Voyez-vous, voilà un peu le tableau de la France à l'heure actuelle.
Passionnant tout ça, Nicolas Vidal. Allez décompresser à l'extérieur. Je suis certain qu'il fait beau chez vous en ce début de soirée.
C'est formidable.
Ah, profitez-en bien. On vous salue de Montréal. C'était Nicolas Vidal en direct. De Paris. Merci, Nicolas Vidal. Alors, Nick Payne qui vous dit merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute encore une fois pour cette spéciale du samedi de Société. Et à la semaine prochaine.